Lorsque la reine Anne d'Autriche se trouva régente, il n'y eut plus, dit le cardinal de Retz, que deux petits mots dans la langue. La reine est si bonne. Ce jour-là s'arrête l'élan de la France. L'essor des classes inférieures qui, malgré la dure administration de Richelieu, avait été si puissant, il retombe sur lui-même. Pourquoi ? C'est que la reine est bonne. Elle comble la foule brillante qui se presse dans le palais. Toute la noblesse de province qui fuyait sur Richelieu vient, demande, obtient, prend et pille. Tout au moins existe-t-il des exemptions d'impôts. Le paysan qui est parvenu à acheter quelques terres paye seul. Tout retombe sur lui. Il est obligé de revendre. Il redevient fermier, métayer, pauvre domestique. Louis XIV est dur d'abord. Point d'exemption d'impôts. Colbert enraye 40 000. Le pays prospère. Mais Louis XIV devient bon. Il est de plus en plus touché du sort de la pauvre noblesse. Tout pour elle. Les grades, les places, les pensions. Les bénéfices même. Et Saint-Cyr pour les nobles demoiselles. La noblesse est florissante. La France est aux abois. Louis XVI est dur d'abord, grondeur. Il refuse toujours. Les courtisans plaisantent amèrement sa rudesse, ses coups de boutoir. C'est qu'il a un mauvais ministre, cet inflexible Turgot. C'est qu'hélas, la reine ne peut rien encore. En 1778, le roi finit par céder. La réaction de la nature agit puissamment pour la reine. Il ne peut plus rien refuser, ni à elle, ni à son frère. L'homme le plus aimable de France devient contrôleur général. Monsieur de Calonne met autant d'esprit, de grâce à donner, que ses prédécesseurs mettaient d'adresse à éluder, refuser. « Madame, disait-il à la reine, si c'est possible, c'est fait. Impossible, cela se fera. » La reine achète Saint-Cloud. Le roi, si serré jusque-là, se laisse entraîner lui-même. Il achète Rambouillet. L'ami désintéressé du comte d'Artois, Vaudreuil, ne veut rien recevoir. Il vend 1 000 000 à l'État, c'est bien d'Amérique. Reçoit et garde ses biens. Qui dira ce que Diane de Polignac, dirigeant habilement la Jules de Polignac, surpris de biens et d'argent. La Rosine couronnée, devenue avec les années la comtesse Almaviva, ne refusait rien à Suzanne, au charme mobile de celle qui fut Suzanne ou Chérubin. La Révolution gâta tout. Elle écarta durement le voile gracieux qui couvrait la ruine publique. Le voile arraché laissa voir le tonneau des Danaïdes. La monstrueuse affaire du Puy-Paulin et de Fénestrange, ces millions jetés entre la disette et la banqueroute, jetés par une femme insensée dans le giron d'une femme, cela dépassa de beaucoup tout ce que j'avais dit la satire. On rit, mais on rit d'horreur. L'inflexible rapporteur du comité des finances apprit à l'Assemblée un mystère que personne ne savait. Le roi, pour les dépenses, est le seul ordonnateur. La seule mesure aux dépenses était la bonté du roi. Trop sensible pour refuser, pour affliger ce qu'il voyait, il se trouvait en réalité dans leur dépendance. À la moindre velléité d'économie, on était triste, on le boudait. Il lui fallait bien se rendre. Plusieurs étaient plus hardis. Ils parlaient haut, fort et ferme, remettaient le roi à sa place. Monsieur de Coigny, premier et second amant de la reine, par ordre de date, refusa de se prêter à l'économie qu'on eût voulu faire d'un de ses gros traitements. Il fit une scène à Louis XVI, s'emporta. Le roi plia les épaules, ne répondit rien. Il dit le soir, vraiment, il m'aurait battu que je l'aurais laissé faire. Il n'est pas de grande famille, faisant quelques pertes, point de mère illustre mariant sa fille, son fils qui ne tire argent du roi. Ces grandes familles concourent à l'éclat de la monarchie, elles font la splendeur du trône, etc., etc. Le roi signe tristement et copie dans son livre rouge « Ah, madame, 500 000 livres. » La dame porte au ministre. « Je n'ai pas d'argent, madame. » Elle insiste, elle menace, elle peut nuire, elle a du crédit chez la reine. Le ministre finit par trouver l'argent. Il ajournera plutôt comme l'Homénie le paiement des petits rentiers. Qu'ils meurent de faim s'ils veulent. Ou bien encore, comme il fit, il prendra les charretées pour l'incendie et la grêle. Il ira jusqu'à voler la caisse des hôpitaux. La France est en bonne main. Tout va bien. Un si bon roi, une si aimable reine. La seule difficulté, C'est qu'indépendamment des pauvres privilégiés qui sont à Versailles, il y a une autre classe, non moins noble et bien plus nombreuse, les pauvres privilégiés de province, qui n'ont rien, ne reçoivent rien, disent-ils. Ils percent l'air de leurs cris. Ceux-là, bien avant le peuple, commenceront la révolution. À propos, il y a un peuple. Entre ces pauvres et ces pauvres qui tous ont de la fortune, nous avions oublié le peuple. Ah, le peuple! Ceci regarde, messieurs les fermiers généraux. Les choses sont bien changées. Jadis, les financiers étaient des hommes fort durs. Aujourd'hui, tous philanthropes, doux, aimables, magnifiques. D'une main, ils affament, il est vrai, mais souvent, de l'autre, ils nourrissent. Ils mettent des milliers d'hommes à la mendicité et font des aumônes. Ils bâtissent des hôpitaux et les remplissent. Persépolis, dit Voltaire dans un de ses contes, a 33 de la finance qui tirent des millions du peuple et qui en rendent au roi quelque chose. Sur la gabelle, par exemple, qui a rapporté 120 millions, la ferme générale en gardait 60 et Denis en laissait 50 ou 60 au roi. La perception n'était rien moins qu'une guerre organisée. Elle faisait peser sur le sol une armée de 200 000 mangeurs. Ces sauterelles rasaient tout, faisaient place nette. Pour exprimer quelque substance d'un peuple, ainsi dévoré, il fallait des lois cruelles, une pénalité terrible, les galères, la potence, la roue. Les agents de la ferme étaient autorisés à employer des armes. Ils tuaient. Ils étaient jugés par les tribunaux spéciaux de la ferme générale. Le plus choquant du système, c'était la bonté, la facilité du roi, des fermiers généraux. D'une part le roi, de l'autre les 33 de la finance, donnaient ou vendaient à bon compte les exemptions d'impôts. Le roi faisait des nobles. Les fermiers se créaient des employés fictifs qui à ce titre étaient exempts. Ainsi, le fisc travaillait contre lui-même. En même temps qu'il augmentait la somme à payer, il diminuait le nombre de ceux qui payaient. Le poids pesant sur moi l'épaule allait s'appesantissant. Les deux ordres privilégiés payaient ce qui leur plaisait. Le clergé, un don gratuit imperceptible. La noblesse contribuait pour certains droits, mais selon ce qu'elle voulait bien déclarer. Les agents du fisc, chapeau bas, enregistraient, sans examen, sans vérification. Le voisin payait d'autant plus. Ô terre, ô ciel, ô justice! Si c'était par la conquête, par la tyrannie d'un maître que ce peuple périssait, il se résignerait encore. Il périt par la bonté. Il souffrirait peut-être la dureté d'un Richelieu. Mais comment endurer la bonté de Loménie et de Calonne, la sensibilité des financiers, la philanthropie des fermiers généraux? Souffrir, mourir à la bonne heure, mais souffrir par élection, mourir du fait de l'arbitraire, de sorte que la grâce pour l'un soit mort et ruine de l'autre. C'est trop, oh, c'est trop de moitié. Homme sensible qui pleurait sur les maux de la Révolution, avec trop de raison sans doute. Versez donc aussi quelques larmes sur les maux qui l'ont amené. Venez voir, je vous prie, ce peuple couché par terre, pauvre Job, entre ses faux amis, ses patrons, ses fameux sauveurs, le clergé, la royauté. Voyez le douloureux regard qu'il lance au roi sans parler, et ce regard, que dit-il? Ô roi, dont j'avais fait mon Dieu, dont j'avais dressé l'autel, que j'implorais avant Dieu même, à qui, du fond de la mort, j'ai tant demandé mon salut, vous, mon espoir, vous, mon amour, quoi? Vous n'avez donc rien senti?